Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, 18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, on a la confirmation alors que ce marché-là résiste quasiment à tout. Le marché de l'emploi des cadres a encore battu des records l'an dernier en France et devrait être encore très très soutenu cette année. On va voir ça bien sûr dans un instant. Sinon, le gouvernement lui est toujours en mode chasse aux milliards. On en parlera dans 10 minutes. Tenez, avec l'homme qui a fait le buzz il y a une dizaine de jours, c'est le sénateur Jean-François Husson qui a fait une petite descente surprise du côté de Bercy. Il sera avec nous sur ce plateau. Gabriel Attal, lui, pendant ce temps, donne des gages à sa majorité, à l'aile gauche notamment. Il leur demande de faire des propositions pour taxer les rentes. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Et puis on dira un mot ce soir de ce rapport très attendu qui vient de sortir. Comment maintenir l'assurabilité du territoire français face à la montée inexorable des incidents climatiques? Il va falloir responsabiliser tout le monde, État, collectivités, entreprises et particuliers. On verra ça bien sûr dans un instant. Voilà le programme non exhaustif bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc, je vous le disais, il y a quand même des fondamentaux auxquels on peut se raccrocher et parfois ça fait du bien. Bonsoir Raphaël Couder. La bonne nouvelle du jour, donc, c'est l'APEC qui le dit. On va continuer à recruter des cadres cette année. Moins que l'an dernier, mais on va quand même en recruter encore beaucoup en 2024, Raphaël. Hein.
Absolument. Les entreprises vont recruter cette année environ 337 000 cadres selon les projections de l'APEC. Ça correspond à une hausse d'environ 2% par rapport à l'année dernière. En 2023, c'était 7% d'embauches supplémentaires. Donc, effectivement, on le voit, l'intensité des recrutements ralentit, mais globalement, ce marché de l'emploi des cadres continue tout de même de croître légèrement. Dans le détail, c'est très contrasté selon les différents secteurs d'activité. Les services à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire l'ingénierie, l'informatique, la R&D sont toujours très bien orientés. Bonne surprise également, l'industrie va poursuivre ses recrutements. En face, en revanche, la construction et l'immobilier s'enfoncent dans la crise. Il y aura moins de recrutement de cadres dans ces secteurs cette année. Au niveau géographique, la dynamique continue d'être portée par les traditionnelles places fortes de l'emploi cadre. L'Île-de-France, par exemple, devrait représenter cette année près d'une embauche de cadres sur deux. Contraction des embauches attendues en revanche en Nouvelle-Aquitaine ou dans les Hauts-de-France. De légers reculs qui sont toutefois à relativiser, nous dit l'APEC, car les niveaux de recrutement resteront cette année proches des records atteints en 2023.
Marché des cadres assume. Merci beaucoup, Raphaël. Et puis donc, le directeur général de l'APEC, Gilles Gâteau, qui sera l'invité de BFM Business, ce sera demain matin en direct à 8h15. Pendant ce temps, je vous le disais, le gouvernement continue à lancer des pistes pour trouver quelques milliards de plus. Et là, bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Là, on est sur un terrain sensible. Il a demandé à ses députés de lui faire des propositions pour taxer les rentes. Et il veut un retour d'ici le mois de juin sur ce sujet, Thomas.
Exactement, Guillaume. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Le Premier ministre veut recadrer le débat parce qu'il voit bien que sa majorité part un peu dans tous les sens sur ces questions de hausse d'impôts. D'un côté, vous avez l'aile gauche de la majorité qui pousse pour des hausses d'impôts ciblées. Des élus influents de la majorité, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, le président de la commission des lois, Sacha Houlier, ou encore le président du groupe Modem à l'Assemblée, Jean-Paul Mattei, veulent que les entreprises contribuent davantage à l'effort de rétablissement des comptes publics. En face, vous avez l'aile droite de la majorité des poids lourds, comme le rapporteur du budget à l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve, le whip de la majorité à la commission des finances, Mathieu Lefèvre, qui ne veulent pas de ces hausses d'impôts ciblées. Et puis au milieu, vous avez le Premier ministre qui essaie de trouver la ligne de crête. Il avait réaffirmé la semaine dernière aux 20h de TF1 son opposition à des hausses d'impôts sur les ménages et les entreprises, mais il avait dit aussi, je le cite, qu'il n'avait jamais eu de dogme sur le sujet des super-profits. Il avait rappelé que les énergéticiens pharmaciens et les laboratoires de biologie médicale avaient eu droit à une taxe spécifique. Et on saura donc au mois de juin, au plus tard, à l'issue de cette mission, si de nouveaux secteurs ou entreprises seront concernés pour le budget 2025.
Mais François Hollande avait ses frondeurs, donc pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'aurait pas les siens finalement? Voilà, c'était un vaste...
On n'est pas là, mais ça commence un peu à ressembler.
Ça commence un petit peu à s'agiter au sein de la majorité. Ouais. Cet os rongé qui a été donné aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Et puis alors, vous savez qu'au milieu de tout ça, dans trois semaines, le 26 avril, les agences de notation Fitch et Moody's sont susceptibles de dégrader la note de la France. Beaucoup le voient venir gros comme une maison, sauf que Fitch a clairement laissé entendre tout à l'heure qu'en fait, elle pourrait ne toucher à rien. Toute nouvelle décision négative est conditionnée à une nouvelle hausse importante de l'endettement que nous jugeons improbable. Voilà ce qu'a dit Fitch très exactement dans un communiqué qui est sorti à la mi-journée. Mais donc, on aura le fin mot de l'histoire, évidemment, le 26 avril prochain, donc dans un peu plus de trois semaines. Dans l'actualité, on voulait vous parler de ce rapport qui est sorti aujourd'hui, le rapport Langrenet sur l'assurabilité des risques climatiques en France. Il a été repoussé à plusieurs reprises. Bonsoir, Alexandra Paget.
Bonsoir.
Document de 116 pages qui propose de nombreuses pistes qui sont parfois... disons-le clairement, assez radical, Alexandra.
Oui, alors d'abord, il faut déjà dire que ce rapport était très attendu. Il était prêt depuis le 22 décembre. Il faut dire qu'il y a urgence, Guillaume, au regard des nouvelles intempéries et inondations qui ont touché plusieurs régions de France ce week-end. Alors, ces catastrophes naturelles à répétition ont un coût exponentielle, c'est bien tout le sujet. 6,5 milliards l'année dernière. Le gouvernement prévoit 70 milliards d'euros d'indemnisation additionnelle dans les trois prochaines décennies. Et ça fait peser le spectre d'un retrait des assureurs des régions les plus vulnérables. Alors, pour éviter ça, la première piste de Thierry Langrenet, que vous allez recevoir tout à l'heure, c'est la prime CatNat, catastrophe naturelle. Des particuliers et des entreprises, ils voudraient l'augmenter chaque année. Les auteurs du rapport préconisent une hausse de 12 à 20% en 2025 de l'assurance habitation, soit une augmentation annuelle de 16 euros par foyer, de quoi dégager 1,2 milliard d'euros. Deuxième proposition, pénaliser les propriétaires de résidences secondaires et locatives. C'est-à-dire que s'ils ne font pas le nécessaire pour protéger leurs biens, les assureurs pourront augmenter les primes et la franchise de l'assurance habitation un peu comme ils le veulent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Troisième idée, obliger les propriétaires à engager des travaux de prévention pour éviter les dommages à répétition. Les habitants des zones classées rouges, c'est-à-dire à risque élevé de catastrophes naturelles, seraient tenus de faire des travaux dans les trois ans après un premier sinistre. À défaut, il subirait un triplement de la franchise pour les sinistres suivants de même origine.
Voilà quelques-unes des pistes préconisées par ce rapport. Thierry Langrenet, qui effectivement sera notre invité tout à l'heure à 18h25 sur BFM Business. Merci beaucoup Alexandra. Dans l'actualité des entreprises, on voulait dire un mot quand même de ce très gros contrat remporté aujourd'hui par Naval Group. Bonsoir Jean-Baptiste Huette.
Bonsoir Guillaume.
Naval Group va vendre à l'Indonésie deux sous-marins de type Scorpène, et ils seront construits sur place grâce à un transfert de technologie, c'est ça Jean-Baptiste hein.
Naval Group attendait depuis 2022 assez fébrilement quand même la conclusion de cette opération, c'est donc fait. La marine indonésienne acquiert deux sous-marins Scorpène à propulsion diesel électrique, c'est un contrat qui avoisine selon certaines sources de presse les 2 milliards d'euros. Particularité de cette commande, c'est outre ces moteurs diesel, les deux sous-marins seront équipés de batteries lithium-ion. C'est une petite révolution technologique parce que ces batteries lithium-ion viennent remplacer les anciennes batteries qui étaient utilisées dans les sous-marins, qui étaient des batteries acide-plomb, qui étaient assez dangereuses, qui étaient vieillissantes. Donc, une capacité énergétique supplémentaire pour ces appareils, ces bâtiments, qui va leur permettre d'être beaucoup plus discrets, d'avoir une autonomie supérieure. Les sous-marins, donc, comme vous l'avez dit, Guillaume, seront construits en Indonésie par les chantiers indonésiens PAL. C'est un pur transfert de technologie. C'est exactement ce qui se fait depuis quelques années avec le Brésil ou avec l'Inde, avec lesquels travaille déjà Naval Group. Donc, belle opération pour Naval Group, qui, d'abord, continue de placer des pions militaires, si j'ose dire, dans cette zone indo-pacifique qui est particulièrement stratégique. En plus, les dépenses militaires dans cette zone sont extrêmement importantes. Et puis, c'est une bonne nouvelle industrielle pour le modèle Scorpène, la classe de sous-marin Scorpène, qui s'est déjà vendue au Chili, en Malaisie, au Brésil, en Inde et donc maintenant en Indonésie.
Et donc, en Indonésie, il y en a deux contrats évalués aux alentours de 2 milliards
exactement.
À peu près. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu es avec nous sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, Étienne Braque, bonsoir. Au Next à la Défense pour BFM Business. On a recommencé à travailler à la Bourse de Paris ce mardi. Et on est reparti dans le rouge ce soir, Étienne.
Et oui, figurez-vous que c'est même la plus forte baisse depuis mi-janvier pour l'indice parisien, alors que la baisse n'est que de 0,9%. Ça montre quand même l'ampleur du rallye de ces dernières semaines. Après des records, l'indice revient à 8130 points ce soir au fixing, le tout avec du volume, plus de 4 milliards d'euros échangés. Il faut dire que vous avez un cocktail de mauvaises nouvelles depuis quelques heures, de nouvelles tensions au Moyen-Orient, mais aussi entre l'Ukraine et la Russie. Ajoutez à cela des éléments macroéconomiques très solides aux États-Unis. Donc la baisse des taux au mois de juin, là, tout d'un coup, l'idée est beaucoup moins claire. Et donc, par rapport à cela, vous avez l'obligataire qui remonte à 4,36% pour le 10 ans américain sur des plus hauts de 4 mois. Et puis donc, le pétrole qui revient sur des plus hauts de 5 mois à 88 $. Ça porte Total Energy plus 4% ce soir à la clôture. Figurez-vous que la valeur est même sur un record historique à la porte des 66 €. Mais ça n'empêche pas le CAC 40 de progresser, loin de là. Moins 0,9% pour l'indice à 8130 points au fixing.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Pendant ce temps, le Dow Jones qui dégringole d'1,2%, 39 073 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui se replie aussi sévèrement, moins 1,35%, 16 175 points. Tout ça à la mi-séance. 18h09, c'est l'homme qui a fait le buzz il y a 10 jours en faisant une descente surprise du côté de Bercy. Le sénateur Jean-François Husson est avec nous dans la grande interview sur BFM Business. À tout de suite.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h13 sur BFM Business, et donc le sénateur Jean-François Husson qui est avec nous. Bonsoir monsieur le sénateur. Merci Bonsoir. Beaucoup, rapporteur général de la commission des finances du Sénat. Sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, c'est vous qui avez fait le buzz il y a 10 jours. Vous avez grillé la politesse à l'INSEE en allant, c'était le 21 mars, faire une descente surprise du côté de Bercy pour recueillir des documents confidentiels sur l'état de nos finances publiques. Pourquoi vous y êtes allé, monsieur Husson? L'INSEE allait sortir ça 5 jours plus tard. C'était pour faire de la gesticulation? C'était quoi l'idée?
Ah non, non, le sujet est trop sérieux et la situation est trop grave. Pourquoi j'ai pris cette initiative? Parce que le gouvernement, lors de l'examen du budget au Sénat, où nous avons examiné le budget en proposant, excusez-moi de le rappeler, 7 milliards d'économies voté par la majorité sénatoriale. Le gouvernement n'en a rien retenu. Il avait ses prévisions de croissance, de déficit, qu'il a tenu jusqu'au 20 mars, où une fuite nous dit qu'au lieu d'avoir un peu moins de 5% de déficit public, on allait passer à 5,6%.
Oui.
Si vous voulez, j'ai trouvé que c'était méprisant pour la représentation nationale et le travail du Sénat. Donc j'ai un tout petit peu réfléchi, mais pas longtemps. Il y avait deux possibilités. Une commission d'enquête, il faut du temps. Un contrôle sur pièce et sur place. Donc, dans la demi-journée qui a suivi, effectivement, je me suis rendu à Bercy pour rencontrer les services parce que j'ai souhaité savoir de quelle manière le gouvernement et quand il était informé.
Mais vous avez eu des mots très durs à ce moment-là et ensuite à l'encontre de Bruno Le Maire. Vous dites clairement, vous l'accusez de cacher l'état réel des comptes pour 2024. Entre parenthèses, si rien n'est fait en l'état actuel des choses, nos déficits, ils sont à combien à la fin de cette année 2024? Donc 5,5 à la fin de l'année 2023.
Alors,
2024, on irait où
la
série?
À l'année 2024, il peut être à 5,6, 5,7.
Ouais, ouais.
Et en 2025, à 5,9. Ça, ce sont des notes sous réserve.
Si rien n'est fait, hein.
Voilà, tout à oui. fait. Voilà, c'est des notes. Donc, effectivement, c'est des notes que le gouvernement a gardées par-devers lui.
Oui.
C'est son droit. Il retient l'information.
Oui, oui.
Il a le droit. Mais il a surtout le droit d'agir. Et quand je dis le droit, il a un devoir d'agir. Et il a fait ni l'un ni l'autre. Et donc, à force de laisser filer, si vous voulez, la dépense, la dette, aujourd'hui, j'ai posé la question jeudi, puisque je me suis invité à Bercy
oui.
le 21. J'ai répondu à l'invitation des ministres la semaine suivante,
oui.
donc jeudi
oui.
dernier.
Oui.
J'ai posé à nouveau la question en disant quel est aujourd'hui l'état prévisionnel du déficit? Quel est le montant de l'effort que nous avons à faire? Eh bien, parce que on va se dire les choses. Aujourd'hui, on a eu 10 milliards de coupes
oui.
budgétaires. Là, décidé sans aucune concertation, mais enfin, 10 milliards. Le ministre nous a dit, le ministre des Finances nous a dit, il en reste encore, ça ne va pas suffire. Donc j'ai reposé la question, et il n'y a pas que moi, en disant, mais quel est le montant complémentaire? Parce que
pour cette année, hein, pour cette
oui,
année.
Pour 2024.
Oui, oui, oui.
Parce que pour boucher un trou pour cette année, les mesures sont différentes, et on ne met pas tout à fait les mêmes matériaux dans un trou à boucher, si c'est un petit trou, ou si c'est quelque chose d'énorme. Là, aujourd'hui, c'est la face nord et on est à plus de 3000 mètres, puisqu'on a plus de 3000 milliards de dettes. Donc, je pense que l'heure est grave et il est temps que le gouvernement pose les choses. De toute façon, il va devoir le faire.
Oui.
Puisque nous avons une échéance là, ce mois-ci, par rapport au programme de stabilité européen. Oui. Donc, c'est bien l'Europe, mais il faut aussi... je dirais, être au rendez-vous, et notamment des comptes
alors,
bien tenus.
Qu'est-ce que proposent les Républicains sur le sujet pour aller chercher? Alors, on le sait, combien de milliards déjà pour ramener nos déficits au niveau prévu, 4,4% à la fin de cette année? Est-ce que l'objectif vous paraît tenable? Et non. Si oui, à quel prix? Non, vous dites non.
On va voir qu'il n'est pas tenable. On ne peut pas revenir d'un coup de baguette magique de 5,5 à 4,4, sachant que nous
sommes... Donc 2023, on n'a pas tenu les objectifs, vous dites 2024, on ne les tiendra pas. C'est pas la peine de s'exprimer.
Mais vous allez voir que le gouvernement va... les corriger. Il va évidemment être tenté de minimiser, mais je pense que nous arrivons à un moment de vérité. Je pense que la situation est grave. Je le dis, sous la Ve République, hors temps de crise, c'est la plus grave crise des finances publiques. Donc on n'est pas là pour plaisanter, je dirais même, on n'est pas là pour faire des petits calculs politiques. Chaque mois passé à ne pas remédier à la situation est un mois perdu. Il est perdu doublement. Il est perdu parce que, évidemment, le trou, la dette abyssale se creuse, la dette augmente, mais aussi parce que, dans le même temps, ce sont les générations actives d'aujourd'hui et de demain. Alors, quand on a aujourd'hui une préoccupation qui est d'avoir des comptes bien tenus, ça n'est pas le cas. Qu'on a une dette écologique et environnementale, climatique, qui n'est pas mince, ne dépend pas que de la France... La responsabilité est double et moi j'invite le gouvernement à faire face à cette double responsabilité. Le Sénat a toujours su prendre sa responsabilité dans le domaine.
Que dit le Sénat? Et au-delà de ça, que disent les Républicains sur la nécessité d'aller chercher ces milliards? Est-ce que vous achetez par exemple le CNAE de la Cour des comptes qui dit qu'il faut 50 milliards d'ici 2027 pour ramener nos déficits sous la fameuse barre des 3% du produit intérieur brut? Un, est-ce que vous achetez ce scénario? Deux, où doit-on aller chercher les milliards au plus vite pour atteindre ces objectifs?
Alors,
qu'est-ce que disent les Républicains là-dessus, monsieur?
La question d'acheter ou de ne pas acheter. Moi, je pense, effectivement, je l'ai dit, j'ai sorti un chiffre. D'ici en 2025, si on ne touche rien et si on croit certaines des prévisions faites actuellement par les services de Bercy, en 2025, il faut 65 milliards. C'est les chiffres du ministère, vous verrez. Je les ai, voilà, ils sont noir sur blanc dans des notes.
Les chiffres qui sont cachés, vous nous dites ça ce soir. Ce sont les chiffres cachés aujourd'hui.
C'est des chiffres qui sont dans des notes.
65 milliards, vous dites?
En 2025.
Oui.
Oui, c'est dans une note de Bercy. Et vous, ne vous inquiétez pas, nous allons faire un travail. Ce chiffre, je l'ai déjà donné puisque je l'ai vu. Et je l'ai donné devant le ministre, jeudi à nouveau. Je n'ai pas eu de réponse.
Je voudrais être sûr de bien comprendre. Vous nous dites qu'il faut trouver 65 milliards pour être sûr de ramener nos déficits au niveau qui ont été annoncés fin 2025.
Voilà, c'est ça.
Ils sont à combien? Quel pourcentage du PIB en fin 2025, vous dites?
Fin 2025, le risque aujourd'hui, c'est 5,9 de déficit.
Ouais.
C'est sans aucune mesure.
Et l'objectif initial, il est de?
Il était de 3,7.
Ah, donc pour aller passer...
Il y a 2,2 points.
Voilà, donc pour aller à 3,7, il faut 65 milliards d'euros, c'est ça que vous nous dites.
Fait.
Et quand est-ce que le gouvernement va sortir du bois sur ce sujet, alors? Vous le savez,
écoutez, je pense qu'il va y aller à pas mesurer, parce que au regard du handicap dans lequel la France se trouve, enfin, il faut quand même juste rappeler qu'on est, en termes de fiscalité, le pays en Europe qui a la fiscalité la plus élevée, impôts et taxes. En termes de dette, on est les troisièmes. Et en termes de dépenses publiques dans les pays développés, nous sommes les premiers. C'est des indicateurs préoccupants. Quand vous y ajoutez l'état du commerce extérieur avec un déficit de plus de 100 milliards d'euros, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même du travail à fournir. Heureusement, il y a quelques sujets sur lesquels les résultats sont plus intéressants, j'en conviens, sur l'emploi. Mais aujourd'hui, il faut être... plus productif et il faut créer plus de richesses.
Bon, d'où la question que je vous posais en une grosse minute. Malheureusement, on est quasiment au bout, mais une grosse minute. Où va aller chercher rapidement ces gisements d'économie, monsieur Husson? Voilà. Qu'est-ce que disent les Républicains là-dessus? Ils ne sont pas toujours au diapason sur ces sujets. Hein,
mais est-ce que le gouvernement est au diapason?
Moi, je n'ai pas dit ça.
Mais non, mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Première annonce.
Non, mais vous.
Mais le ministre en charge des comptes publics, qui est quand même en responsabilité aujourd'hui, il dit qu'il faut désindexer les retraites de l'inflation. Le président de la République a dit « Non, mais vous n'y pensez pas, monsieur le ministre, circulez, rien à voir. On nous a fait le coup du logement, on nous fait le coup de la priorité de la santé, on nous fait le coup des agriculteurs au-dessus de la pile. »
Et vous nous faites le coup de quoi, alors, républicains, alors, pour vous, les
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut, en fonction de la gravité et du montant du déficit, il faut poser les chiffres. Il faut regarder quels efforts doivent être consentis. Et il y a deux sujets, au moins. Il y a un sujet de ce qui peut être entrepris de manière immédiate, rapide, mais souvent c'est un peu des fusils à coups, et il y a les dépenses, ce qui peut être fait de manière structurelle, c'est-à-dire comment on réduit la dépense publique. Réduire la dépense publique, c'est pas un gros mot.
À échéance rapide déjà, monsieur Husson, qu'est-ce qu'on fait là dans les prochaines semaines, les prochains mois?
Il faut poser ce diagnostic et le gouvernement.
J'attends des choses un petit peu concrètes de votre part.
C'est trop tôt pour dire nous des.
Non, le sujet date pas d'hier. Vous n'allez pas me dire vous découvrez le sujet aujourd'hui.
Pas le sujet aujourd'hui. Mais pour prendre les mesures, je le redis, elles ne sont pas de la même ampleur. Nous avons proposé des mesures sur l'emploi, sur la formation professionnelle, sur l'éducation nationale, par exemple, pour réduire de 700 millions d'euros, rien que sur une année, les crédits qui aujourd'hui ne sont pas consommés pour la formation des enseignants parce que ça ne rentre pas dans le temps possible. Et des chiffres comme ceux-là, on en a un certain nombre. Et puis, je vais quand même vous dire une dernière chose. Aujourd'hui, et je l'ai dit également au ministre jeudi, le gouvernement a déporté 16 millions d'euros de crédits qui n'avaient pas été consommés en 2023 et les a remis dans le budget 2024. Alors
16 millions, monsieur.
16 milliards, pardon. 16
milliards, je peux poser la question. 16 milliards. OK.
Ce qui veut dire qu'au final, nous avons voté un budget avec les données qui sont moins 10 milliards de coûts, plus 16 milliards de crédits reportés. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, le budget est plus élevé de 6 milliards que celui qui a été voté. Comprenez qu'il y a de la dissonance. J'attends aussi, comme je l'ai demandé au ministre de l'Économie et des Finances, des réponses claires sur le sujet. Nous ne pouvons pas tricher. C'est le moment de la vérité et c'est le moment du travail collectif. Pour ça, il faut des bases solides.
Je comprends donc à vous entendre, ce sera le mot de la fin, que toute la vérité n'a pas été dite sur l'ampleur des déficits.
Absolument.
Aujourd'hui,
ça aurait été.
Vous nous dites, il y a encore des chiffres qui vont tomber là, qui sont cachés.
Mais
vous les avez publiés, vous les avez placardisés.
Non, les connais.
Vous les connaissez.
C'est le contrôle sur pièce et sur place.
Bon.
Mais puisqu'on va avoir nous une mission flash de la commission des finances pour essayer de comprendre depuis quand le gouvernement, comment il travaille, comment les services alimentent le gouvernement pour l'aider dans la prise de décision. C'est tout ça qu'on doit bien comprendre pour savoir si effectivement il y a eu un retard à l'allumage, pas de chance, ou bien alors si le gouvernement a mal agi.
Merci beaucoup Jean-François Husson. Merci d'être venu voir le sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, le rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat. Merci monsieur le sénateur d'être passé ce soir sur BFM Business. Comment faire en sorte que la France reste assurable face à la multiplication des risques climatiques? Gros sujet, il y a un rapport rendu au gouvernement là-dessus aujourd'hui, on en parle dans 30 secondes, à tout de suite.
Good evening business, actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h25, alors c'est un sujet qui revient en force au moment où la France avait confronté à une nouvelle vague de crues et d'inondations. C'est un rapport qui a été remis aujourd'hui au gouvernement, rapport sur l'assurabilité des risques climatiques en France. On va en parler au téléphone avec Thierry Langrenet qui est avec nous. Bonsoir monsieur Langrenet, merci d'être avec nous quelques instants. Bonsoir, vous êtes président de l'association environnementale Atelier du Futur et vous êtes l'un des auteurs de ce rapport qui a été rendu aujourd'hui au gouvernement. En quelques secondes déjà, pour que ce soit bien clair, le thème c'est comment faire en sorte que les assureurs continuent soient en mesure de continuer à assurer particuliers, entreprises contre les risques climatiques. C'est ça l'idée, hein, monsieur Langrenet.
Oui, tout à fait. Et en codicille, comment est-ce que les assureurs peuvent également porter à l'étranger des politiques d'atténuation, de décarbonation des activités humaines, de manière à ce que ces événements soient moins nombreux dans le futur.
Oui. Avant de parler un peu des quelques propositions, on a 3-4 minutes pour ça. Rappelez ce chiffre que vous donnez, vous dites parce que les événements climatiques sont plus fréquents, sont plus intenses, on est potentiellement sur une facture de 70 milliards d'euros sur les 30 prochaines années. C'est ça, monsieur Langrenet, aujourd'hui?
Aujourd'hui, on sait que nous sommes dans une situation de déséquilibre. Les régimes d'assurance des événements climatiques sont multiples, d'abord en France. Il faut compter l'assurance récolte, l'assurance des particuliers et des entreprises qui elles-mêmes se subdivisent en deux régimes, le régime tempête pour simplifier et le régime des catastrophes naturelles. Donc comme l'indique le GIEC, nous allons au-devant d'une intensification à la fois en fréquence et à la fois en sévérité des événements naturels qui mettent à mal ces différents régimes.
Et ce que vous dites, c'est préserver notre régime de catastrophe naturelle, parce que c'est ça l'enjeu. Vous dites en gros, ça va être l'affaire de tous, de l'État, des collectivités locales, des particuliers, des entreprises. Tout le monde va être amené à faire des efforts et à se responsabiliser. C'est ça l'idée fondamentalement. Hein.
Exactement. Il faut bien avoir conscience que ce régime des catastrophes naturelles, c'est une pépite. C'est un grand privilège parce qu'il organise une solidarité nationale qui permet à tous, particuliers et entreprises, d'être assuré quel que soit le niveau d'exposition de la zone où l'on se situe.
Et il est déficitaire depuis 2015, ce régime, le régime CatNat, comme on l'appelle, hein, de catastrophe naturelle.
Tout à fait, ouais. Parce que la prime correspondante à ce régime est restée stable, les franchises sont restées stables, et pendant ce temps-là, les événements naturels se sont multipliés, ouais, et ont gagné en intensité, spécialement en 2022, comme on le sait.
Si je vous demandais, Monsieur Lantray, pardon, on est un peu pris par le temps, en une grosse minute, de nous donner deux, trois des grosses propositions que vous préconisez justement pour préserver ce régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.
Alors, d'abord, vis-à-vis des assurés, des particuliers et des entreprises, l'effort à court terme à réaliser, c'est celui du rééquilibrage des primes. La décision a été prise fin décembre, elle prendra effet en 2025, mais il faut savoir que le changement climatique, il sera durable, et que donc l'inflation des sinistres exigera un relèvement périodique des primes à hauteur, on a considéré, de l'ordre de 1% par an pour les décennies à venir. Ça, c'est du côté des primes d'assurance. Oui. Du côté des assureurs, nous considérons qu'il est important qu'une fois le régime rééquilibré, ils assument leur responsabilité sociétale et que donc ils restent présents dans toutes les zones, même les plus exposées, parce qu'ils ont l'aubaine d'une assurance obligatoire à un prix imposé par l'État sur les zones les plus préservées. Donc les assureurs doivent réaliser une permanence de l'offre d'assurance sur toutes ces zones. Et puis, très important, comme vous l'avez dit, la prévention est aujourd'hui un parent pauvre, oui, du régime, parce que le régime d'assurance catastrophe naturelle, en fait, déresponsabilise. Personne n'a aucun intérêt à la prévention, puisque les primes et les franchises sont insensibles à ces efforts de prévention. Et donc, il faut inventer un dispositif qui donne plus envie et plus les moyens à tout un chacun, particulier et entreprise, d'investir dans la direction de la prévention.
Qui contraigne, Monsieur Langrenet, on va le dire comme ça, qui contraigne justement à faire de la prévention pour éviter les incidents divers et variés.
Alors, on a proposé des mesures dans trois directions. Ouais. Premièrement, le financement. Ouais. Et donc l'accompagnement des particuliers, des entreprises pour réaliser des diagnostics et des travaux. Deuxièmement, l'accompagnement dans le maquis des intervenants, à la fois au plan des diagnostics et à la fois au plan des travaux, en référençant par exemple des professionnels dans ce domaine. Et troisièmement, la sensibilisation. Et la sensibilisation, elle peut se faire de deux manières. D'abord par l'animation, si je puis dire, d'événements que peuvent produire les assureurs, à l'instar de la prévention routière, qui a fait un excellent travail pour diminuer les sinistres corporels, mais aussi, c'est vrai, par des mesures plus prescriptives, notamment en direction des résidences secondaires et locatives, en second lieu, après sinistre, puisque c'est après sinistre qu'on est le plus sensibilisé.
Voilà pour les quelques-unes des propositions que vous égrenez dans ce rapport qui a été rendu public aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Langrenet, président de l'association environnementale Atelier du Futur. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. Il est 18h31.
BFM Business, l'info éco.
Allez, 18h31, je vous redonne les grands titres de l'actualité. C'est la bonne nouvelle du jour. L'emploi des cadres résiste envers et contre tout. D'après les chiffres de l'APEC qui sont sortis ce midi, quelque 330 000 cadres ont été recrutés l'an dernier, plus 7%. Cette année, le nombre d'embauches devrait être supérieur à 2%, mais globalement, il n'y aura pas d'effet de retournement d'après l'APEC. Pendant ce temps, lui, gouvernement continue à lancer des pistes pour trouver quelques milliards de plus. Gabriel Attal a donné un os à ronger à l'aile gauche de sa majorité aujourd'hui. Il lui réclame de plus en plus ouvertement des hausses d'impôts ciblées. Gabriel Attal leur demande de faire d'ici juin des propositions pour taxer les rentes. Moody's rassure un petit peu la France, elle qui pourrait potentiellement dégrader la note française le 26 avril, sauf qu'elle a laissé entendre ce matin que ça pourrait bien ne pas être le cas. Toute nouvelle décision négative est conditionnée à une nouvelle hausse importante de l'endettement que nous jugeons improbable. Voilà ce qu'a dit l'agence Fitch ce matin. Et puis, gros contrat pour Naval Group qui va vendre à l'Indonésie deux sous-marins de type Scorpène, des sous-marins à propulsion électrique, diesel électrique, contrat qui avoisine les 2 milliards d'euros. 18h33, on vient avec Audrey Tcherkov et nos experts. Première partie dans un instant jusqu'à 19h. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h36 sur BFM Business. Audrey Tcherkov nous a rejoint. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Et nos experts, les premiers experts sont là. Stéphanie Villers est avec nous. Bonsoir Stéphanie. Économiste et conseillère économique chez PwC France. Et puis Sébastien Lella. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Entrepreneur économiste à la Fondation Concorde. Alors, vous avez entendu Jean-François Husson, l'homme qui a fait le buzz il y a 10 jours.
Oui.
Descente à Bercy, qui a fait beaucoup causer pour... Regardez de près ce qu'était l'ampleur des déficits. Qui a remis une pièce dans la machine tout à l'heure? Il dit clairement la vérité n'a pas été faite à 100% sur l'ampleur des déficits. Écoutez ce qu'il nous disait il y a quelques instants sur BFM Business.
Effectivement, c'est des notes que le gouvernement a gardées par-devers lui.
Oui.
C'est son droit. Il retient l'information, oui, oui. Il a le droit. Mais il a surtout le droit d'agir. Et quand je dis le droit, il a un devoir d'agir. Et il a fait ni l'un ni l'autre. Là, aujourd'hui, c'est la face nord et on est à plus de 3000 mètres. Puisqu'on a plus de 3 000 milliards de dettes. Donc, je pense que l'heure est grave et il est temps que le gouvernement pose les choses. De toute façon, il va devoir le faire.
Oui.
Puisque nous avons une échéance là, ce mois-ci, par rapport au programme de stabilité européen. Oui. Donc, c'est bien l'Europe, mais il faut aussi, je dirais, être au rendez-vous et notamment des comptes bien tenus.
Ben c'est quand même assez grave, parce que ce que Jean-François Husson vous disait tout à l'heure, Guillaume, c'est que le gouvernement n'a jamais cherché, en réalité, à redresser la situation, alors que l'administration a multiplié les alertes mi-2023, et que par ailleurs, la probabilité de non-atteinte des objectifs, notamment concernant le déficit, était connue avec quasi certitude vers novembre 2023. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement a mené des débats qui étaient complètement insincères, et c'est assez humiliant pour le Parlement, Stéphanie.
Oui, et c'est presque inquiétant pour la suite, hein, sur les prévisions faites pour les déficits à venir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la capacité du gouvernement de pouvoir prévoir une croissance bon an mal an qui était bonne, hein, parce qu'ils avaient prévu, je rappelle, 1% de croissance pour 2023, on est à 0,9, donc oui. On n'est pas si loin. Et normalement, en fait, vous savez que les recettes, ils sont vraiment corrélées à la croissance. Rappelez-vous, quand il n'y a pas de croissance, quand la croissance chute, on raconte que on peut pas arriver à ces objectifs-là parce qu'il y a eu un choc qui nous a pas permis d'atteindre ces objectifs. Or 2023, il n'y a pas eu de choc puisse expliquer en fait.
Au contraire, parce que l'inflation, enfin le choc inflationniste a plutôt boosté les recettes de l'État.
Voilà. Et je pense que les agences de notation, même s'il y a eu un signal positif qui vient d'être adressé, c'est quand même leur devoir de regarder la trajectoire du déficit en fonction en fait des prévisions de croissance. Lorsqu'on a aux alentours de 1% de croissance, on peut pas faire un déficit de 5,9% sans inquiéter la place financière.
Ça semble compliqué, Sébastien.
Alors, quand on a voté le budget, en réalité, on était encore au-delà en prévision de croissance. Alors, il y avait toute une gamme de prévisions, ça allait jusqu'à 1,4%. Là où le gouvernement était un peu cavalier, c'est que... Et on a la même chose, regardez les chiffres, par exemple, des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On a des scénarios comme ça qui ont été faits par les économistes, oui, de recettes. Ça peut être 7, 8 ou 10 milliards de recettes. Bien évidemment, le gouvernement a pris 10 milliards. Ils ont fait la même chose avec la croissance. Oui. Et si on faisait ça, nous, dans nos entreprises, on se planterait en permanence. Donc, je ne crois pas qu'il faille parler, en l'occurrence, de mensonges ou de fraude, comme certains le font. C'est plutôt un comportement un peu cavalier. Ils se sont peut-être dit, ça va passer ça s'améliore en fin d'année, un peu plus de recettes avec l'inflation. Force est de constater que ça ne marche pas. Et en tout cas, l'opération vérité, pour l'instant, alors, elle est en cours. On va en reparler, mais très clairement, on cherche de l'argent.
Non, mais c'est là ça, où on peut en trouver. Le sénateur, il nous dit que toute la vérité n'a pas été faite. Il a sorti ce chiffre qu'il faudra vérifier. Il nous dit, en fait, fin 2025, nos déficits devaient être à 3,7% du PIB. Donc, il dit on ne sera pas. Mais il dit, si on voulait atteindre cet objectif, il faudrait économiser 65 milliards d'euros.
Bah, ça, c'est un chiffre étant égal par ailleurs. Et maintenant, d'abord, il faudra vérifier les chiffres, effectivement. Si c'est l'écart, parce que les sommes sont faramineuses.
C'est vraiment nous cacher les choses, si c'est ça.
Voilà. Aller chercher 10 milliards par an, c'est déjà dur. Oui. 20 milliards, c'est très compliqué, mais on peut le faire. 65 milliards par an, il faudra restructurer tout l'État. Donc, à vérifier. Et puis, attention aussi avec ces chiffres. Encore une fois, il y a un aspect comptable, tout le monde comprend l'aspect comptable, mais il y a aussi un aspect plutôt macroéconomique, plutôt prudentiel, où il faut arriver à se projeter, c'est un exercice difficile. Comme quand on fait un BP, je crois surtout qu'il faut imposer aux politiques, quand ils ont plusieurs scénarios macroéconomiques, de faire comme dans le monde de l'entreprise, de prendre une moyenne, une médiane, et pas de garder uniquement le scénario le plus optimiste. C'est ce qui s'est passé, je vous dis, pour les JO. Regardez les JO, on va vers une catastrophe pour les JO, parce que tout a été calibré avec 10 milliards de recettes, alors qu'en fait, les économistes vous disent... En moyenne, on atteindra les 7, mais entre 7 et 10 milliards.
Alors d'accord, ok, très bien, mais est-ce que pour 2024, la trajectoire qui est prévue dans la loi de programmation des finances publiques...
Non, c'est pas encore la bonne.
Peut être tenue.
Non, on va encore être obligé de trouver des économies.
Ben voilà. Parce que les 4,4%, ça semble quand même difficile, Stéphanie.
Oui, en fait, c'est assez nébuleux à prévoir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'en fin d'année 2023, en fait, comme ça s'est ralenti, les entreprises étaient moins au rendez-vous et il n'y avait toujours pas les consommateurs.
Et ça, on ne s'en serait pas rendu compte avant début 2024.
Voilà. Il y a eu des mauvais chiffres, donc de mauvaises recettes. Pourtant, en fait, ce qui se passe là, il faut pas rater l'élan conjoncturel qu'on est en train d'entreapercevoir. C'est qu'on voit que les consommateurs sont en train de revenir, de dépenser un peu plus que l'année précédente. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que l'inflation est en train de se tarir, que c'est un problème qui est passé, et que le pouvoir d'achat a été maintenu, qu'ils ont pu se constituer une certaine forme d'épargne pour la majorité.
Une épargne historique.
Une épargne historique, absolument. Et il y a cette envie de consommer davantage. Et du côté des entreprises, en fait, il y a eu une pause dans leur investissement parce que les entreprises se sont dit on est resté optimiste pour la première partie de l'année 2023. On va commencer à regarder ce qui se passe parce que nous, on a besoin de regarder nos carnets de commandes et notre chiffre d'affaires. Et si, en fait, ils veulent des facteurs de réassurance, et le premier, c'est de revoir le consommateur revenir sur les marchés, dans le commerce. Et ça, à ce moment-là, si on adresse un signal avec une augmentation des impôts pour les entreprises ou pour les ménages, le risque, en fait, c'est de couper ce petit élan qui est en train de se mettre en place. Donc, parce que, encore une fois, la croissance, si elle est plus tonique que prévu, c'est des recettes supplémentaires.
Mais alors, parce que vous parliez des carnets de commandes des entreprises, si on regarde un des indicateurs les plus avancés du PIB, qui est les directeurs d'achat, les taux sont catastrophiques. Mais depuis 12 mois. Donc enfin, on peut s'attendre à ce qu'on frôle la récession cette année, non ?
Oui, et en plus, pour l'instant, toutes les hypothèses budgétaires, on revient encore aux hypothèses de croissance, c'est 1% pour Bruno Le Maire, mais quand on regarde les divers instituts, on n'y est pas. Enfin, il faudrait une bonne surprise pour atteindre les 1% cette année. On est plus bas.
Non, mais c'est comme l'année dernière, les instituts prévoyaient maximum 0,5, 0,3, 0,5.
Finalement, on a fait mieux.
C'est quand même le gouvernement qui avait raison dans l'histoire. Donc, il ne faut pas forcément suivre des instituts pessimistes qui ne se rendent pas compte. Moi, nous, quand on interroge les entreprises, on voit en fait que les entreprises s'attendent à avoir davantage de consommation, et ce qui leur permettra en deuxième partie d'année d'investir davantage. Et c'est pour ça que les entreprises n'ont pas l'intention d'augmenter les prix de vente. Et ça, c'est aussi une bonne
nouvelle. Et on le voit dans l'emploi des cadres aussi, où on a plutôt de bonnes nouvelles, effectivement.
Oui. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, une chose est claire, c'est que le gouvernement a besoin d'argent. Et la question, c'est de savoir s'il va mettre la main sur une partie du trésor de guerre de l'Agirc-Arrco. Catherine Vautrin, apparemment, d'après des informations de presse, aurait relancé l'idée en coulisses.
Oui, toujours dans l'idée que la réforme des retraites a permis au régime des retraites complémentaires de faire des excédents en plus. Et que donc, l'État piochait dedans. Bah, écoutez ce que disait ce matin le patron de l'Agirc-Arrco, François-Xavier Celeret, qui était très catégorique. Il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de magot, il n'y a rien. Écoutez ce qu'il disait.
D'abord, ces cotisations, elles appartiennent aux salariés du privé. Ce régime de retraite, il appartient aux salariés du privé. Et la caractéristique de l'AGIRC-ARRCO, c'est que quand on travaille plus longtemps, on a une retraite plus élevée. Nous sommes, comme on dit, un régime contributif. Donc, ces cotisations, cet excédent relatif, ce rendement relatif, alors c'est pas un excédent, c'est un rendement relatif, il est utile pour garantir le paiement des retraites de tous les salariés du privé qui travailleront un peu plus longtemps demain, mais qui aussi continueront à vivre un petit peu plus longtemps. Donc, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de magot, ce sont des recettes, ce sont des réserves qui sont utiles aujourd'hui et demain.
Oui, alors, sauf que en réalité, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la réforme des retraites poussée par le gouvernement, même si in fine elle est très déceptive, elle a quand même permis au régime de générer 1 milliard de plus de bénéfices. Et l'argument du gouvernement se trouve précisément là. Et c'est ce qu'ils veulent chercher, ils veulent récupérer ce milliard.
1 milliard 6 exactement, en 2026, 3 milliards en 2030, c'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, l'AGIRC-ARRCO, c'est des excédents énormes. Le gouvernement, c'était ce qu'ils avaient dit l'an dernier, rappelez-vous, et puis ça n'a pas marché, hein, mais il y avait déjà eu le débat, on refait le même débat pratiquement 12 mois après. Mais ce qu'ils avaient dit à l'époque de la réforme, ils avaient dit, voilà, la réforme, elle a été quand même assez impopulaire, on en a subi un coup politique, mais grâce à cette réforme, on vous donne aussi des économies. Donc les économies, je crois que c'est à partir de 2026, 6 milliards d'euros en année pleine, puis après on va jusqu'à 10 milliards, ça augmente. Et l'AGIRC-ARRCO, c'est à peu près 20% de ça, donc ça fait 1,2 milliard d'euros par an d'économies supplémentaires.
Potentiellement 3 milliards horizon 2030.
Voilà, potentiellement beaucoup plus. Et l'argument, c'est de dire, attention, on ne vient pas piocher dans vos excédents historiques, voilà, etc. On va venir piocher dans les économies à venir que vous allez faire grâce
qui sont
à notre
uniquement
réforme.
Liées à la réforme,
voilà,
de votre
sont uniquement liées à la réforme. Ça se tient. Le sujet, c'est de savoir s'il y aura vraiment ces rentrées-là, quel est le rythme de notre économie. Voilà, toujours pareil, comme disent les économistes, toutes choses étant égales par ailleurs.
C'est toujours tentant quand vous avez un matelas de 78, 79 milliards d'euros derrière, quand même.
Oui,
qui appartient
justement au salarié privé. Non,
au salarié du privé.
Pas au gouvernement.
Et à la bonne gestion du groupe paritaire qui représente AGIRC-ARRCO. Donc, c'est étrange de dire, on vous a permis de faire des économies supplémentaires d'un milliard.
Et oui, on vous les ponctionne.
On les récupère de l'autre. Ensuite, voilà, on commence à puiser 1 milliard sur les 78 milliards, mais après...
On pourra aller bien plus loin.
Voilà, il restera 77 milliards. Et est-ce que ça va véritablement inciter l'État à se réformer s'il y a effectivement cette manne qui est à côté et qui se laisse faire? Parce que en fait, le risque, c'est que ça ne s'arrête pas là. Donc il faudrait... D'autant qu'en fait, le message est assez ambigu, parce que, comme le disait le président de l'AGIRC-ARRCO, cette somme, en fait, elle est réinvestie sur les marchés financiers. Donc,
oui, c'est vrai. Elle est aussi faite pour revaloriser les pensions des adhérents, mais c'est vrai que les pensions, elles ont été revalorisées il y a quelques mois de 4,5%.
Alors, ce qui, effectivement, est un petit peu fallacieux, c'est que normalement, les sommes sont réinvesties, ce qui veut dire qu'on a un retour sur investissement, et en fait, en les prenant et les donnant au régime général directement, on va perdre le retour sur investissement sur ces sommes-là. Donc en fait, on perd beaucoup plus que 1, 2 ou 3 milliards d'euros par an, parce qu'on perd les retours, le rendement potentiel qu'on aurait pu avoir sur ces sommes en les investissant.
Et puis ça va mettre un coup de canif aussi au paritarisme.
Alors, c'est surtout ça, sur le principe, bien sûr. Philosophiquement, c'est inacceptable.
Ça montre surtout que les partenaires sociaux étaient bien meilleurs gestionnaires que l'État. Même des députés, des représentants républicains le disent ouvertement aujourd'hui. On ne veut pas que l'État reprenne la main sur ce magot. Non. Parce qu'on montrait qu'ils savaient gérer, finalement.
Ils devraient plutôt s'inspirer de la gestion des groupes paritaires. Ensuite, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment de grosses marges de manœuvre de la part de pour AGIRC-ARRCO. Pourquoi ? Parce que pour la réforme de l'assurance chômage, il faut rappeler que Emmanuel Macron a retiré les cotisations salariales sur le chômage. Ce qui fait qu'en fait, la voix des syndicats au sein de ce groupe paritaire de l'UNEDIC pèse moins, puisque en fait il y a pas, les salariés ne cotisent plus. Alors c'est plus simple après à l'État d'aller vouloir faire des réformes lorsque les syndicats n'ont pas de poids financier. Pour AGIRC-ARRCO, les salariés du privé continuent à cotiser.
Oui, c'est ça, parce que le secteur privé finance déjà les retraites du secteur public via l'impôt.
Oui. Oui.
Donc a priori, on aurait pu imaginer qu'ils les laissent tranquilles, mais ça ne sera pas le cas.
Sinon, si on veut faire des économies, alors Sébastien, on va en parler, on en dira un mot tout à l'heure, mais on en dit déjà un mot. Vous avez sorti ce week-end un rapport avec les contribuables associés. Alors le titre est assez évocateur, la simplification administrative, sortir de l'enfer bureaucratique français. Et si on s'attaquait une bonne fois pour toutes au chantier de la complexité administrative, vraiment pour faire des économies, il y a des économies à faire substantielles?
Alors oui, d'abord le coût de la complexité administrative en France, alors c'est assez difficile à évaluer, mais on a quand même 20 années d'études sur ça, c'est entre 3 et 4% du PIB, donc on va dire en gros, enfin une moyenne de 70 milliards d'euros par an. Qui en pâtit? Vous, moi, tout le monde, il y a un coût d'opportunité de la complexité administrative, bien évidemment les entreprises, donc il y a de nombreuses mesures qui sont, de propositions de réformes qui sont liées aux entreprises, notamment aux petites entreprises dans mon rapport, mais il y a aussi l'administration elle-même, parce qu'elle perd en efficacité et en efficience. Donc c'est un gros morceau. L'efficacité de l'administration elle-même, l'efficacité dans son action, c'est déjà des dizaines de milliards d'euros par an. Voilà. C'est pas facile à faire, c'est la réorganisation managériale, c'est la simplification de documents, de CERFA, etc.
Ça, c'est le chantier d'un quinquennat entier, on fait pas ça à mi-mandat.
Mais c'est la promesse de Gabriel Attal.
Alors d'abord, c'est Emmanuel Macron s'est réemparé du sujet, rappelez-vous, lors de sa première grande intervention télévisée Fleuve, là, au début de l'année. Mais enfin, ça fait des années qu'on en parle, on est en train de célébrer les 50 ans du décès de notre président Pompidou. C'est déjà lui qui disait arrêtez d'emmerder les Français, rappelez-vous la formule.
Oui.
Voilà, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais étudiant, il y avait un président du Conseil d'État, Renaud Denoy de Saint-Marc, qui parlait déjà du droit bavard. En fait, on a lancé ces chantiers-là à la décennie précédente. Rappelez-vous François Hollande, Thierry Mandon, le choc de simplification. Ouais. Mais malheureusement, il n'y a pas de.
Il y a la loi Pacte aussi.
Il n'y a pas eu de politique pérenne en fait en la matière, parce que au tout début de son quinquennat, Emmanuel Macron l'a un peu oublié, puis là en début de deuxième quinquennat on se réveille à nouveau, on voit que le terme est revenu avec certains ministres, souvent il y a des ministres de la transformation numérique et de la simplification. Donc c'est pas un effort constant, mais en fait on en parle depuis une vingtaine d'années. Je peux vous dire que la première chose à faire quand on sort un nouveau rapport, c'est d'aller lire tous les autres rapports qui ont été publiés, les études, et il y en a
sur le sujet, il y en a beaucoup. Voilà, mais c'est ça, mais beaucoup. Quand même, avec une mesure phare en tête, cette promesse de Gabriel Attal de tout simplement simplifiée, elle s'illustre avec cette mesure de l'instauration d'un test PME. C'est-à-dire que systématiquement, toutes les mesures qui concernent les PME devraient être testées avant d'être votées. Ça semble assez logique. Est-ce que vous y croyez ?
Les entreprises, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent que toutes les normes ne sont pas à jeter. Il faut quand même un cadre juridique et ça permet quand même de donner une orientation, une visibilité pour les entreprises. Il faut juste que les normes, déjà d'une, arrêtent de
s'empiler.
Et de s'empiler. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est plutôt une démarche politique. C'est-à-dire que chaque politique trouve une solution par rapport à un problème avec une nouvelle norme. Plutôt que de dynamiser une activité, eh bien, ils vont trouver chaque politique a envie de marquer son empreinte en réglementant. Il faut quand même expliquer que ces empilations de réglementations qui sont faites par le va-et-vient de ces politiques freinent l'activité économique, parce que notamment les PME, elles sont toutes ces normes qui sont inventées, parce qu'on est quand même on est champion dans ce domaine.
Un mot, Sébastien, on y reviendra tout à l'heure. Vous voulez revenir sur le principe de précaution carrément. Vous dites rien que ça, c'est déjà un frein à l'initiative, véritablement.
Oui, alors c'est un exemple que je prends. De manière générale, on y reviendra, mais l'idée, c'est de dire, pour moi, quand on simplifie uniquement en partant du terrain, secteur par secteur, ça marche pas, parce qu'après, on a des normes qui reviennent à nouveau, on a un nouveau ministre qui arrive. Et donc, je recommande de faire ce qu'on avait fait, par exemple, avec la commission Badinter il y a quelques années, de se dire, le droit doit définir dans chaque secteur des principes généraux, et après, de faire confiance aux gens sur le terrain. Et le principe de précaution, c'est un bon exemple, parce que c'est un principe général, et puis finalement, il a essaimé de partout dans le droit, et donc, vous voulez construire un logement, on vous oppose le principe de précaution, vous voulez innover.
Hautement sensible à dire, on touche au principe de précaution, c'est quand même.
Et je mets les pieds dans le plat, en plus c'est rentré dans le bloc de constitutionnalité, donc c'est la partie la plus dure, mais on pourrait faire la même chose avec d'autres grands principes comme ça. Donc c'est aussi un appel, pareil, je dis à peu près la même chose, aux politiques de cesser de vouloir régenter tous les détails de notre vie quotidienne et de définir des principes généraux pour nous protéger. Et ensuite, de déléguer aux acteurs de terrain, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, les maires, les chefs d'entreprise, les représentants du personnel, et arrêter d'avoir ce droit bavard qui se mêle de tout et qui prétend tout régenter.
Mais en tout cas, tout le monde en parle, en effet, d'Emmanuel Macron à Gabriel Attal, mais on se rend bien compte que c'est compliqué de simplifier.
Oui. Il faut le faire tous ensemble, donc j'amène quelques idées pour les aider.
Vous dites qu'il faut réduire au moins 10% le stock normatif actuel. Ah oui, vous ne voulez pas tout éradiquer non plus.
Non, mais c'est ce que nos voisins ont fait, c'est Pays-Bas, Allemagne, la moitié
les
du
Canadiens
rapport
l'ont fait, les Canadiens
qui est sur les expériences étrangères. Oui. Et les expériences étrangères, il y en a certaines adaptables facilement, Canada, Pays-Bas, Allemagne. Il y a des expériences un peu plus dur, on va dire, hard, c'est peut-être ce qu'est en train de faire Javier Milei en Argentine, ou même Trump en 2016. On peut déjà regarder au moins nos voisins européens.
Voilà pour ce rapport.
Ça c'est dit. Oui. On va fêter un anniversaire, puisque c'est en 2004 que Larry Page et Sergey Brin ont fondé Gmail. C'est le 20e anniversaire de Gmail. Frédéric Simotel.
Oui, tout le monde a cru, rappelez-vous, c'est 20 ans, à un poisson d'avril, puisqu'ils l'ont sorti un 1er avril, et en disant, voilà, nous on va sortir, alors que tout le monde avait des messageries gratuites, et on dit, non, nous on va sortir une messagerie gratuite, mais on va mettre 1 gigaoctet de données, c'est-à-dire près de 500 fois plus que celle de Yahoo, parce qu'à l'époque c'était 30-60 mégas de stockage.
Donc on a cru que c'était un poisson d'avril à l'époque.
Ah bah oui, parce qu'ils arrivent en disant, on va sortir une messagerie, vous pourrez stocker plus de 16 000, enfin vous pourrez visionner plus de 16 000 messages, alors que jusqu'alors les messageries c'était 50 messages, sinon il fallait supprimer. Oui, en stockage vous aurez 1 giga de données, alors que jusqu'alors c'était entre 30 et 60 mégas de données. C'est, on est quand même dans un multiple de 250 à 500 fois plus entre Yahoo et Microsoft. Donc tout le monde avait pris ça pour vraiment une, et même le journaliste à l'époque qui avait été appelé chez Google, puis Google n'était pas l'empire encore d'aujourd'hui, donc tout le monde a eu ça un peu sous la en souriant, en se disant qu'est-ce que c'est que cette, et puis non, c'est, ça a vraiment existé. Aujourd'hui c'est quand même 1,8 milliard de comptes actifs,
hein. Ah ouais, c'est énorme.
Je regarde un peu les chiffres, 15 gigas, donc on peut stocker gratuitement 15 gigas de stockage. Oui. Alors ça vient vite, on vient vite à la limite, hein, avec les photos et tout ça, parce que Google pariait beaucoup sur le fait qu'on purge nous-mêmes notre messagerie. En fait je pense que vous êtes comme tout le monde, hein, on attend qu'on nous prévienne pour surtout ne rien faire et payer les 0,50 de plus, ouais, pour accéder aux 100 gigas.
Non, mais c'est intéressant parce que quand on parle de simplification, on se rend compte aussi que ce sont les initiatives et l'innovation du secteur privé qui fait beaucoup plus avancer les choses que ce que peut faire le secteur public.
Oui, la seule chose où ils n'ont pas réussi à percer, c'est l'univers de l'entreprise. Ouais. Puisque là, Microsoft reste avec 95% de.
Oui, alors moi, sur toutes mes plateformes entreprises, c'est l'email, c'est Gmail.
Ouais, ouais, mais là, en part de marché, c'est 95% Microsoft.
C'est vrai que c'est pas grand-chose.
Ouais. Voilà. Et Microsoft, pour la petite histoire, aujourd'hui, devrait se séparer de. Enfin, pas se séparer de Teams, mais ne devrait plus intégrer Teams en natif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
pourquoi
vous êtes justement pour donner sa chance aux autres, au Zoom, au Webex.
Ah oui, c'est ça, Cisco, c'est la fameuse régulation.
Ils avaient compartimenté il y a 6 mois en Europe, et là ils compartimentent un peu partout dans le monde.
Voilà, et on se retrouve à faire un peu ce qu'ils avaient fait il y a quelques dizaines d'années aussi avec Internet Explorer, qui était leur navigateur standard, et puis un jour on leur a dit non, il faut que les gens puissent choisir. Bien là, c'est pareil, quand vous ferez une réunion, on pourra choisir.
J'ai une question, est-ce qu'en 2004, quand ils lancent, il est disponible en France? Moi, je vis à l'étranger et je l'ai le jour du lancement.
Il est disponible partout dans le monde.
Dans le monde entier.
Dans le monde entier. Alors, avec des adresses .com à l'époque. Le .fr viendra un peu plus tard, mais c'était disponible partout dans le monde.
Et c'était pas un poisson d'avril. Voilà, Gmail, 20 ans, toutes ses dents.
Ça s'appelait le projet Caribou.
Ça bon? Oui. Sérieusement.
Et puis et derrière, et c'était la première pierre, hein, parce que derrière il y a eu Google Maps, Google Docs, YouTube qu'ils ont racheté, ils ont lancé Chrome, enfin voilà, après c'est tout.
Et ben voilà,
l'histoire que l'on connaît, ouais.
Bel anniversaire à 20 ans à Gmail qui fête donc ses 20 ans aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric, merci Stéphanie, Sébastien, on vous retrouve dans un quart d'heure, hein, les experts reviennent bien sûr jusqu'à 20h sur BFM Business. Nous on se retrouve bien sûr dans un instant.
Et oui, on continue de décrypter l'actualité économique pour vous, à tout de suite.